Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Je suis tellement heureux d'être avec vous ce matin. J'ai cette fin de série qui brûle dans mon cœur depuis quelques mois maintenant, quelques semaines maintenant. Et cette série s'appelle Respire. Et il y a dans mon cœur ce fardeau de voir une église qui est capable de recevoir de la présence de Dieu, le cœur de Dieu, la façon de penser de Dieu, la parole de Dieu, les principes de Dieu, et de mettre en pratique ce que Dieu dit. Rien n'est plus frustrant pour Dieu et pour ceux et celles qui veulent marcher pour Dieu de voir une église ou des chrétiens qui reçoivent semaine après semaine des messages bibliques, mais qui ne changent pas. Et le monde n'a pas besoin d'une église religieuse, le monde a besoin d'une église qui sait manifester le cœur du Père. Le monde a besoin de la solution, et la solution c'est Christ. Mais vous et moi, nous sommes les porteurs de la solution, nous sommes les porteurs de la présence de Christ. Et pour que Christ ne soit pas un concept, il faut qu'il soit visible. Et pour que Christ soit visible, il faut que nous le rendions visible. Nous sommes donc la manifestation, l'évidence, non seulement de l'existence de Dieu, mais l'évidence et l'existence de la bonté, de l'amour, de la grâce de Dieu. Et les gens peuvent voir qui Dieu est en nous regardant vivre. Et ils devraient voir qui Dieu n'est pas en nous regardant vivre. Et nos enfants devraient être capables de voir quel est le cœur du Père en nous regardant vivre. Et les enfants devraient savoir comment Dieu prend soin de ses enfants en regardant les mamans vivre. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui n'a pas seulement un écho dans l'éternité, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui a la puissance de changer le quotidien. Et donc à Extravagance, nous nous efforçons plus que jamais de comprendre la chose suivante. Tout ce que je fais est connecté à une âme. Tout ce que tu vas faire est connecté à une âme. Ce que tu ne fais pas est connecté à une âme. Ce que je pense faire que pour moi peut avoir un impact énorme sur mon enfant ou ma femme ou mes voisins ou mes amis ou ma nation. Et donc une église qui respire est une église qui est capable d'amener le monde à respirer à son tour. Et votre rôle, à vous et à moi, notre rôle est de dire au monde, Jésus veut que tu respires. Alors respire. Regarde ton voisin et dis respire. Et quand tu dis respire, tu ne peux pas dire respire. Ça, le ir fait bouger tes mâchoires. Dis respire. Alors on a vu vendredi soir, on a vu un premier principe pour cette conclusion de cette série, un principe je pense qui a été fort pour beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement qui me disaient merci, je suis très touché de cela, mais j'espère de tout notre cœur que nous allons vivre ce qui est prêché. Et le premier principe a été relativement simple, mais je décide de faire quoi ? Ah non, mais ça c'était la série, mais le point que nous avons abordé vendredi soir, je décide de ne plus jamais retourner en arrière et de faire ce qui n'a jamais fonctionné. Et on a vu ensemble qu'il y a des moments où il faut savoir se dire « Ouh, ça ne marche pas !» On a vu qu'il y avait des couples qui restaient ensemble, non mariés, parce que si tu es marié, c'est trop tard. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est trop tard. Et la mauvaise, c'est que c'est trop tard. Tu es marié, donc tu dois travailler pour que ça fonctionne. Et on parlera de cela plus tard. Mais on a vu qu'il y avait des couples, et j'ai pris l'exemple d'une jeune femme qui sortait avec quelqu'un qui ne voulait pas changer, qui refusait de changer. Et elle retournait toujours avec lui, et elle était malheureuse et brisée, et elle tombait dans ce trou qu'on a vu ensemble, et elle ne pouvait pas être heureuse parce que la personne refusait de changer. Et on a vu ensemble que pour donner une nouvelle chance à quelqu'un, il faut qu'il y ait de nouvelles bases. Si la personne change, redonne-lui une nouvelle chance. Si elle ne change pas, attends qu'elle change pour donner une nouvelle chance. Sinon, tu vas retomber dans le trou. On a vu ensemble la vie, ma vie, ta vie en 4 chapitres. Premier chapitre, je m'en vais me promener. Et alors que je me promène, bam, je tombe dans un trou. Et il me faut des semaines et des mois pour en sortir. Avec des souffrances, je suis brisé, les jambes cassées et gratinées de partout, et je galère pour ressortir pendant ce temps dans le trou. Ma famille souffre, mes amis souffrent, mes voisins souffrent. Et j'arrive à en sortir et je me mets à respirer à nouveau un tout petit peu, et je prends mes respirations et je me dis bon, je veux aller par là, et je me remets à me promener. Et je gambade. Et je tombe encore dans le même trou. Et il me faut des semaines et des mois pour m'en sortir. Et je souffre et je galère. Et je me demande où est Dieu, pourquoi Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné. Et je suis dans le même trou. Et j'en sors au bout de quelques mois, quelques années parfois. Et je souffre et j'ai l'âme brisée. Chapitre 3. À nouveau, je me dirige dans la même direction. Et je vois le trou cette fois-ci. Je fais, ah, je t'ai vu cette fois-ci, petit trou. Mais comme je suis têtu comme une mule, je veux juste voir qu'est-ce qu'il y avait dans le trou qui faisait autant mal. Et je m'approche un tout petit peu de trop près, et tout d'un coup, je tombe dans le trou, à nouveau le troisième trou. Des mois et des semaines passent, et je galère et je souffre, et tout le monde souffre avec moi. Parce qu'une personne qui souffre fait souffrir les autres. Et je ressors du trou et je respire à nouveau. Quatrième chapitre, j'en ai marre, je change de direction. Ça, c'est une vie de repentance. Et on a vu ensemble que ceux qui respirent se repentent. Celui qui respire sait se repentir. Il sait changer de direction. Il se dit, ça n'a pas fonctionné, ça n'a jamais marché. Il ne changera pas ou rien n'a changé. Pour l'instant, j'abandonne le fait de vouloir changer la personne. Je vais me concentrer sur être reconstruit. Travailler mon cœur, travailler ma vie, savoir qui je suis vraiment, me rapprocher de Dieu, pratiquer sa parole et voir comment Dieu va me conduire. Parce que tout ce que Dieu fait est déjà béni. Beaucoup de chrétiens cherchent à demander à Dieu de bénir leur plan, alors qu'accepter le plan de Dieu, il est déjà béni. Ce qui m'amène aujourd'hui à mon deuxième point pour vous. Dans la série « Je respire », plus jamais j'essaierai de faire quelque chose qui me pousse à être la personne que je ne suis pas. Plus jamais, je vais essayer de faire quelque chose qui me pousse à être la personne que je ne suis pas. Et je vous rappelle, s'il vous plaît, que comme le message de vendredi soir, je vous parle de tendance, d'attitude, de façon de vivre. Je ne parle pas d'une action dans une vie, je vous parle d'un style de vie, une tendance à toujours retourner à son vomi. Vendredi soir, ce matin, la tendance de faire quelque chose qui m'éloigne de ce que je suis vraiment. Une question rapidement, avez-vous déjà vécu ça? Vous faites quelque chose qui n'est pas vous. Deux personnes? Ah. Il y a des choses que ceux qui réussissent font des choses bien précises que ne font pas ceux qui échouent. Et ceux qui échouent, par exemple, continuent à vouloir faire des choses qui les poussent à ne pas être ce qu'ils sont vraiment. Je vais expliquer dans un instant. J'aimerais juste vous rappeler la série, les points que je risque d'aborder avec vous durant les prochaines semaines pour finir la série Respire. Je décide de ne plus jamais retourner ou refaire ce qui n'a jamais fonctionné. Cela, on l'a vu. Je décide de faire quelque chose, de ne plus jamais faire quelque chose qui me pousse à être la personne que je ne suis pas. Vendredi prochain, ne ratez pas vendredi prochain, c'est je refuse d'essayer ou je décide de ne plus jamais essayer de changer quelqu'un d'autre. Ah, celui-là, ça va taper, hein, je vous promets. Et même moi, je me suis dit, tout, qu'est-ce que j'étais bête. Qui va venir vendredi prochain? C'est pour le même prix, hein, c'est gratos. 4, je décide de ne plus jamais croire que je peux plaire à tout le monde. Alors ça, on comprend. Vous allez voir que dans la vie quotidienne, malheureusement, on se fait souvent avoir. 5, je décide de ne plus jamais choisir le confort du court terme au lieu de choisir les bénéfices du long terme. 6, je décide de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Aimer quelqu'un ne signifie pas lui faire confiance s'il n'est pas digne de confiance. D'accord? 7, je décide de ne plus jamais enlever mes yeux de la grande image. Beaucoup de chrétiens ne voient pas la grande image. 8, je décide de ne plus jamais négliger la discipline qui est nécessaire pour faire de ma vie un succès. 9, je décide de ne plus jamais oublier qui suis-je. Où en suis-je dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et enfin, 10, on verra ensemble, je décide de ne plus jamais oublier que ce qui se passe en moi influe grandement sur ce qui se passe autour de moi. Donc ce matin, je décide de ne plus jamais faire quelque chose, tendance à faire des choses, qui m'éloigne ou qui t'éloigne de ce que tu es vraiment. Romains 12, verset 6 nous dit, nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Alors je vais vous dépeindre une histoire simple dont j'ai été témoin trop souvent en tant que pasteur et chrétien. J'ai vécu ça en vrai, d'accord ? C'est une vraie histoire. Cette jeune femme qui à l'époque avait 14 ou 15 ans, copine de classe. Et un jour on parlait ensemble et je lui dis, toi c'est quoi ton rêve dans ta vie ? On échange nos rêves et elle me dit, moi mon rêve c'est d'être mariée à un gars riche. Il peut être moyennement beau, mais il faut qu'il soit riche. Et je regarde, je fais, tu sais, c'est bizarre parce que toi tu es créative, tu aimes l'aventure et tout ça, et toi tu veux quoi? Tu veux un gars riche, mais rêve encore plus large, riche, beau, enfin, non, je veux un gars riche, je veux le statut social, je veux rouler en BM, en Porsche, je veux être capable d'avoir des fringues de marque tous les jours quand je me réveille, j'ai une grande maison avec piscine. C'est ça ton rêve? Je me dis, ouais, c'est ça mon rêve. Elle s'est mariée avec ce gars riche. Très riche. Et au bout de 3 ou 4 ans, je l'ai croisée il y a des années de cela, je ne l'ai plus vue depuis. Mais quand j'avais croisé, elle avait beaucoup changé. À l'époque du lycée, c'était une fille géniale, marrante, fun, relax, cool, créative, la vie, l'aventure, c'est super. Mais son désir de se marier avec un gars riche l'a amenée à faire des choses qui l'ont poussée à ne plus être ce qu'elle était vraiment. Et quand j'ai recroisé, elle était habillée très classe, avec des fringues classe, avec une superbe montre d'une marque que je ne dirai pas. Elle avait sa BM, série 3, cabriolet, nouveau modèle, magnifique. Elle était habillée classe, mais elle était morte. Sa famille, celle de son mari, était un peu comme, sans vouloir, je veux dire, avoir un jugement, mais ça avait été extrêmement, un peu trop guindé, trop sérieux, trop aristocrate pour elle. Trop, tu sais, je bois du thé le matin et je bois comme ça. Trop, non, trop. C'était plus elle. Elle devait changer sa façon de faire les choses pour être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et au fil du temps, oui, elle avait de l'argent sur son compte, mais son cœur était vide. Pendant des années, elle a accepté de faire des choses pour rester dans la famille, mais ce n'était plus elle. Autre exemple, j'étais à l'époque au lycée et je me souviens qu'à chaque fois que je regardais mon emploi du temps et qu'il y avait français, latin, tout d'un coup je sentais la grippe s'emparer de moi. Tout d'un coup la fièvre montait, tout d'un coup je perdais mes forces. Ou pire de ça, mes parents ne savaient pas, mais quand je regardais, j'arrivais au lycée, 4e étage, je voyais la mer, je voyais les vagues, je prenais sur moi de me dire, l'océan n'attend pas. Et j'allais surfer. C'était grippe à la maison ou surfer. Je préférais surfer. J'allais surfer parce que le français et le latin, j'aimais beaucoup lire, mais j'aimais pas aller en français. Ça me prenait la tête, c'était pas moi. Tout d'un coup, c'est comme si je rentrais dans la salle et on faisait off. Et quand je sortais de la salle et que je voyais qu'il y avait, après il y avait science ou maths ou physique ou bio, hop, on. Là, j'étais super, il y a la science, c'est cool. Tout le monde peut s'identifier un peu à ça. Tu rentres dans une atmosphère, tu rentres quelque part et puis c'est off, on t'éteint, tu es mort. T'as plus rien qui fonctionne, c'est pas toi, c'est pas toi. Et tu sors d'un cours, tu rentres dans un autre cours et là c'est toi, tout d'un coup tu aimes faire ce que tu fais, waouh. Combien de fois j'ai entendu « ce n'est pas moi, je me sens vide, je me sens mort, me lever le matin est un calvaire, je traîne le pied, j'ai pas envie d'y aller. » D'autres m'ont dit « Bruno, j'ai pas envie d'être un leader de groupe de maison, j'aime pas ça. » Ah, tu sais, c'est ça la vie, ça m'intéresse pas. Et le nombre de chrétiens qui font des choses qui les éloignent de ce qu'ils sont vraiment, ce matin, je vous propose et je vous dis stop. Je propose que nous tous soyons de ceux qui disent « Waouh, la vie, et je suis en extase, j'adore ma vie, j'adore ce que je fais, je me lève le matin avec le sourire, la passion de faire ce que je fais, tout ce que je fais est la manifestation de ce que je suis. » J'ai failli perdre mon épouse Élodie. Quand j'ai tout fait pour la mettre dans un moule, « Chérie, femme, je suis ton Seigneur. » Embrasse mon alliance. Tu dois absolument devenir une chanteuse sur l'estrade et être une femme de pasteur, prendre le micro et prêcher, parler. Tu seras ainsi parce que tu es mariée avec moi, point. C'était pas elle. C'est toujours pas elle. Elle aime pas le public dans le sens visible. Elle aime pas prendre le micro. Elle n'aime pas ça. C'est pas elle. Quand je la place dans une telle dimension, off. C'est pas elle. Et j'ai failli la perdre en la forçant à faire des choses qui l'éloignaient au fur et à mesure de la personne qu'elle était vraiment. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, l'aide du pasteur Marc, l'aide de mes amis, de ma famille, si je n'avais pas eu cette aide précieuse, j'aurais pu la perdre définitivement. Elle aurait pu être off avec moi tout le reste de sa vie. Et j'ai appris une grande leçon. Plus jamais je vais forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas lui. Attention, je vais expliquer. Relax. Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, le temps passe vite. Lorsque tu fais quelque chose pour laquelle tu es né, le temps fly, comme on dit, ça vole, tu es heureux. Quand Stéphanie de nous et mon épouse Élodie vont chez le roi Merlin, je sais que j'en ai pour la journée entière à attendre leur retour. Qu'elles vont visiter tous les rayons et vérifier chaque numéro de vis. Parce qu'elles aiment ça. Quand tu es, écoute bien, quand tu fais des choses qui sont en totale adéquation avec ce que tu es vraiment appelé à être, on appelle ça « tu es dans ta zone ». Et quand tu es dans ta zone, tout ce que tu fais progresse. Tout ce que tu fais porte du fruit. Tes performances augmentent. Mais quand tu fais des choses qui ne sont pas toi, tu as beau faire tous tes efforts, tu vas avoir beaucoup de problèmes à exceller parce que tu n'as pas été taillé pour ça. Et ça enlève dans l'Église une grosse pression. Cessons de nous comparer parce qu'on n'est pas tous pareils. On a reçu, Romains 12, des dons différents de la part de Dieu. Dons spirituels sont différents, les talents sont différents, les personnalités sont différentes. Je me suis pris une claque à Chicago. Une femme est venue enseigner et elle a partagé sur le thème suivant, la puissance d'un leader introverti. Et moi j'ai toujours cru qu'un vrai leader était un leader extraverti. J'ai toujours cru que pour être leader, il fallait être extraverti. Et donc j'ai forcé ma femme, qui est une introvertie, à devenir extravertie. Ça ne marche pas. Bill Gates est un introverti. Pas mal, hein? Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook, est un introverti. Pas mal quand même, hein? Il y a donc une puissance dans chaque être humain que Dieu a placé, que tu sois extraverti ou introverti. Et quand vous et moi, nous essayons d'exiger que l'autre fasse des choses qui ne lui ressemblent pas, et quand nous confondons unité et conformité, et que tout le monde est pareil, tout le monde doit penser pareil, tout le monde a la même façon de faire les choses, nous tuons l'Église. Nous tuons nos familles, nous tuons notre mariage, nos relations. Quand les parents exigent que les enfants deviennent comme eux, ou fassent comme eux, ou fassent mieux qu'eux, ou fassent... Quand tu exiges des choses qui ne sont pas chez ton enfant, tu le tues à petit feu, tu vas en faire quelqu'un d'autre. Si tu dois faire quelque chose qui t'éloigne de ce que tu es vraiment, ne le fais pas. Alors, bien sûr, je vais expliquer quelque chose d'important. Est-ce que je dis que cela signifie que mon ego est sur le trône et que je décide de faire uniquement ce que j'aime ? Non. Est-ce que cela signifie que voilà, je refuse de faire une seule chose qui ne me correspond pas ? Non. J'expliquais. Cela signifie-t-il que parce que je veux être moi-même, je refuse le compromis dans une relation ? Non. Si tu aimes ta famille, tu as des compromis. Si tu aimes ta femme, tu fais des compromis. Si tu aimes ton mari, tu fais des compromis. Si tu aimes tes enfants, il pourrait arriver que tu acceptes un emploi qui ne te corresponde pas pour une saison parce que tu aimes ta famille et tu veux qu'ils mangent à leur faim. Je ne parle pas de ce genre de situation-là où il faut pendant une saison accepter des choses qui ne sont pas nous. Je vous parle de cette tendance à ne pas comprendre que nous sommes en train de nous engager dans une situation dangereuse où nous allons faire des choses qui ne sont pas nous. Rien ne vibre en nous, nous le savons, et nous choisissons de nous séparer du design de Dieu pour notre vie. Nous choisissons d'oublier ce que Dieu veut que nous soyons parce que voilà, il faut qu'on fasse des choses qui ne sont pas nous et on s'éloigne du design de ce que Dieu a fait pour notre vie. Tu me suis ce matin ? C'est extrêmement simple et important parce que si tu oublies cela, tes performances vont stagner, tu seras frustré, tu seras blessé, tu seras aigri, tu seras mort et tu ne pourras pas respirer. Celui qui respire est celui qui agit selon le design de Dieu pour sa propre vie. Chaque don est différent, chaque talent est différent. Lisez avec moi dans Éphésiens 2 s'il vous plaît. Éphésiens 2, 10 nous dit « Oui, c'est Dieu qui nous a fait ». Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en bonnes actions. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Dieu dit, voilà c'est simple, j'ai créé Harold avec ses qualités, avec son ADN, avec sa personnalité. Je vais faire en sorte que Harold fasse ça dans mon royaume. Voici la liste d'actions bonnes que je veux qu'il pratique. Mais si Harold commence à choisir d'autres actions qui ne sont pas sur la liste de Dieu, il va commencer à devenir quelqu'un qui n'a pas été appelé à être. Ecclésiaste 3 nous dit, verset 12, « Ainsi je sais, le seul bonheur pour eux, c'est de se réjouir et de profiter de la vie. » Écoutez bien ça. « Quelqu'un qui mange, boit et profite des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. » Ce style de vie-là où tu sais que ce que tu fais vient de Dieu, ce que tu fais dans le plan de Dieu, ce que tu fais, ta vie, c'est Dieu qui l'a voulu, donc quand tu jouis des fruits de ton travail, de ce que tu produis, tu es heureux. Vous savez, je vais être franc avec vous, il m'a fallu des années pour essayer de comprendre que je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. L'Église de Christ, pendant 25-30 ans, a voulu nous faire croire que le seul ministère pouvant diriger une église, c'est un pasteur. Et pendant des années, j'ai essayé d'être un pasteur, j'ai failli mourir. Je suis un leader d'une église, mais pas un pasteur forcément. Un pasteur aime passer du temps à boire le café. Moi, je veux savoir où va aller tout le troupeau dans 10 ans. J'aime les gens, mais pour savoir où ira le troupeau de Dieu, les brebis, le peuple de Dieu, dans 10 ans, je ne peux pas boire le café avec tout le monde tous les jours. Sinon, on restera là tout le temps. Pour prendre une décision comme celle qu'on a prise il y a un an, où je viens voir le comité, j'ai au comité, il faut qu'on quitte la Caffrine, on vient ici, et il faut mettre 5000 euros de plus dans le budget, et il faut changer de salle. Pour prendre une telle décision, il faut que je passe du temps devant le trône de Dieu. Qu'est-ce que lui a à dire ? Il faut que j'analyse les données. Combien on est ? On est 300, 500, 700, 1000. Combien on sera dans 2 ans ? Où est-ce que Dieu veut qu'on aille ? Je suis un leader d'église. Ma fonction est d'être un visionnaire et de planter des stratégies. Mais le collectif religieux veut que non, tu sois un pasteur et on oblige les leaders d'église à être des pasteurs. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'un leader d'église s'entoure de pasteurs. Groupe de maison. Des bergers. Je ne suis pas un enseignant. Alors qu'est-ce que je fais ? Je demande à Dieu d'envoyer des grands enseignants qui enseignent la parole de Dieu avec des puissantes bombes. Steph débarque. Mais si j'essayais d'être un pasteur enseignant toute l'année, déjà, vous aurez dit, Bruno, arrête. Rentre chez toi, prends des vacances. Je sais très bien que je ne suis pas la tasse de thé de tout le monde, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on s'entoure d'une équipe riche, solide, avec des talents et des dons qui viennent de Dieu pour construire tout le peuple de Dieu. Alors je refuse aujourd'hui de faire des choses qui ne sont pas moi. Par contre, il peut m'arriver, et j'aime faire ça, de m'asseoir et de boire un café avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Ça veut dire que si je m'engage à faire ça tous les jours, je deviendrai quelqu'un que je ne suis pas. C'est pas grave, ok. Ou bien c'est une bonne vérité, vous l'encaissez, ou bien vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave. Attends, dis-lui, respire. Ce que j'essaye de dire, c'est extrêmement important. Écoutez bien ça. Avant de t'engager avec quelqu'un, dans une relation, si t'es pas encore marié, vous les jeunes et les moins jeunes, célibataires qui se plaignent, je veux me marier. Avant de te marier avec quelqu'un, pense-toi la question suivante. Est-ce que cette relation va changer ce que je suis vraiment? Avant de dire oui à un boulot qui dit, tu sais, tel boulot, il me fait vibrer. Mais tel boulot, il est bien mieux payé. Attention. Es-tu prêt à sacrifier ce que tu es vraiment pour un meilleur salaire? Ou es-tu prêt à vivre une vie avec un salaire moins gros, mais tu es sûr que ce que tu fais tous les jours, c'est ce que tu aimes vraiment? Parce que Dieu ne peut pas travailler pleinement avec celui ou celle qui porte un masque. Il ne peut pas travailler pleinement avec des hommes et des femmes qui sont dans la duplicité, qui on ne sait pas qui tu es vraiment, on ne sait pas qui on est vraiment. Il faut être capable de dire en face, je suis ce que je suis, voilà ce que j'aime, voilà ce qui me fait vibrer, voilà ce que je veux apprendre. Et tu es capable donc de travailler pleinement dans le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Et c'est là le rôle de Dieu, de Saint-Esprit dans notre vie, de nous amener à vivre exactement ce que Dieu a pour nous. Alors non, je ne dis pas qu'il faut que mon ego règne tellement que je dise, ça je ne veux pas faire, du style, un jeune me dit un jour, je dis, pourquoi tu ne travailles pas? Il me dit, c'est pas en moi ça. Eh ben, je vais t'aider à le faire entrer en toi, tu vas voir. Tout le monde comprend que là, on ne parle pas de problème, on parle de caractère. Là. Non, la vraie question, c'est pas, est-ce que je dois travailler? Ça c'est sûr, tout chrétien doit travailler. La vraie question, c'est, dans quoi vais-je travailler? Ah, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Non, tu vas faire la vaisselle. Mais c'est pas en moi ça, c'est pas grave. Je parle pas de ça là. Philippiens 2 nous dit, verset 3, ne faites rien pour, écoutez-moi, c'est puissant, ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple. Et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Quand tu es connecté à ce que Dieu veut que tu sois, tout ce que tu vas entreprendre et faire sera pour le bien des autres. Et si tu comprends cela, si tu comprends et si je comprends en Église, que tout ce que nous voulons faire en ce moment, c'est pour le bien de la Réunion, pour le bien de la France, pour le bien de nos voisins, de nos familles. Si nous faisons les choses pour lesquelles nous avons été créés, alors il y aura des fruits, il y aura des résultats, il y aura un impact, il y aura de la vie, on va respirer. Le principe du jour est le suivant. Reste lucide sur ce que tu es vraiment et sur ce que tu veux entreprendre. Sois toujours connecté à ce que Dieu veut que tu sois et que tu deviennes. Si tu perds de vue ce que tu veux, écoute-moi ça, si tu perds de vue ce que Dieu veut que tu sois, alors tu vas accepter une lobotomie totale. Tu vas faire des choses qui ne sont pas connectées à toi. Tu vas faire des choses en disant, tu sais Bruno, je suis leader de groupe de maison, mais c'est pas moi, j'aime pas ça. Et moi j'ai commis l'erreur à l'époque de croire que pour être leader à extravagance, il fallait être leader de groupe de maison. Que Dieu nous pardonne pour notre ignorance, mais c'est comme ça arrive. On grandit tous ensemble, oui ou non? Aujourd'hui, on se rend compte que non, c'est pas vraiment ça. Il y a différents types de leaders, différentes façons de penser, différentes façons de vivre la vie chrétienne, différents types d'onction, différentes façons d'avoir l'onction. Il y a ceux qui vont devoir jeûner 40 jours pour avoir tel type d'onction. D'autres vont pouvoir passer du temps à adorer Jésus pour avoir un autre type d'onction. Chaque type d'onction est différente et est obtenu de différentes façons, selon le cœur de certains et selon le plan de Dieu. Chacun est différent, Paul est différent de Pierre, mais les deux travaillent dans le même but. L'un sème, l'autre plante, l'autre arrose, et Dieu fait croître. Ne laissez jamais une portion de la vérité être présentée comme la vérité. La vérité est très très large, elle est belle, elle est magnifique, elle s'appelle Jésus-Christ. Mais mon expérience de Jésus ne sera jamais identique à ton expérience de Jésus. Et donc il nous faut célébrer nos différences d'expérience et savoir que Dieu travaille comme il le veut, envers qui il veut, comme, selon ce qu'il veut faire. Et chacun est différent, chaque onction est différente, chaque don est différent, chacun est différent. Et plus jamais je vais me laisser tenter à faire quelque chose qui n'est pas moi. C'est pour cela que j'ai appris aujourd'hui, j'apprends dans la douleur, à ne plus être dogmatique. Avec ma femme, j'ai été dogmatique. Chérie, si tu veux faire telle chose, fais comme moi. Non, elle ne veut pas faire comme toi. Elle n'aime pas ta façon de faire. Ça l'agace en fait, tu parles trop. Laisse-la tranquille. Je viens de citer ce que Dieu m'a dit un jour quand je priais pour elle. Arrête de la forcer. Tu veux qu'elle devienne un deuxième toi, mais au secours. Le pasteur Marc, un homme très sage, m'a dit « Ne réveille pas la tigresse qui sommeille en elle. » Trop tard. Romains 12, 3 nous dit. Romains 12, 3. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je veux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Ça veut dire que la clé de ce matin, c'est d'apprendre, de passer du temps dans la présence de Dieu pour avoir un bon jugement, une bonne appréciation de ce que Dieu veut faire de toi, de ce que Dieu a fait de toi, de comment tu es vraiment avec tes dons et tes talents, avec tes lacunes et tes défauts. Il faut que tu saches, ça c'est moi. Afin que lorsque Dieu te donne une opportunité ou que j'arrive, je viens de te voir en tant que leader, ça ne dirait pas de faire telle chose, tu ne voulais pas faire telle chose, ah ouais, ça je le sens bien, pasteur, ça je le sens bien, je veux faire ça. Ou sinon, ben ok, ça n'a pas le choix, je vais faire. Avez-vous déjà essayé de faire longtemps quelque chose qui n'était pas vous? Et moi j'ai vu dans mon cœur de pasteur en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui portent un masque, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne veulent pas blesser d'autres personnes ou parce que, eh ben, ils ont trouvé que ça à faire. Et comme cette jeune femme-là qui voulait tellement être riche, elle a pu, elle s'est fourvoyée, elle a laissé sa vraie personne mourir parce qu'elle voulait être riche. Je veux un riche. Ouf. Ça ne dirait pas un gars selon le cœur de Dieu? Si, ça c'est bien, mais au moins qu'il soit riche. Pouf. S'il y a le cœur de Dieu qu'il est riche, tant mieux. Emmène-le à l'église. Mais ce matin, je veux vraiment vous dire, si vous vous sentez en ce moment pris au piège et qu'au fond de vous, tout vous crie au secours, je n'aime pas où je suis, je n'aime pas ce que je fais, je n'aime pas ce que j'entreprends, je n'aime pas ce que ma vie va commencer à donner, je n'aime pas la direction de ma vie, tout ça, je n'aime pas, ce n'est pas moi. Alors oui, il y a des saisons où il faut accepter un processus de Dieu, comme par exemple aller à l'école. Dites pas aux parents, Bruno m'a dit dimanche que c'est pas en moi, j'y vais plus. Tu y vas aller à l'école et tu auras 20 partout. Me dit, tu sais, franchement, j'aime l'église, mais je ne me sens pas appelé à être leader de groupe de maison. C'est pas moi. Tu veux faire quoi? Je veux diriger un groupe de vélo. Ok, vas-y, fonce. Moi, je préfère faire, tu sais, je préfère être dans l'équipe de parking et gérer le parking, j'aime ça. C'est génial. Maintenant, si tout le monde me dit que tout le monde veut prêcher à la place de Steve, c'est chaud. Ça va être compliqué à gérer. Il y aura plus de monde sur l'estrade qu'en bas. Mais si on arrive avec lucidité, avec humilité, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse vraiment de ma vie? J'ai eu l'histoire d'un médecin qui est en prison aujourd'hui, un médecin en prison. Quand il était à la fac, son rêve, était d'être un musicien professionnel, musicien, talentueux au piano, déchirant tout instrument. Mais son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ses deux frères étaient des médecins. Et ils ont tous donc choisi pour lui qu'il serait un médecin. Hyper intelligent, le gars. Et comme il était intelligent, bon ADN, il est devenu médecin, chirurgien. Mais après 7 ans de médecine, après avoir été médecin pendant 7 ans, chirurgien, il a été inculpé 4 fois d'affilée parce qu'il avait oublié des choses dans le corps des gens. Parce que sa tête n'y était pas, c'était pas lui. Et quand on lui demandait comment ça se fait qu'un médecin aussi brillant sur le papier, avec ses diplômes et un doctorat, un gars a déchiré les examens, hyper intelligent, puisse être aussi laxiste dans un boulot aussi important, il a répondu en disant « Ce n'était pas moi, j'aime pas la médecine. » 49 ans, la vie gâchée en prison parce que les parents lui ont forcé à faire médecin. C'est bien d'être médecin, les gars, c'est cool d'être médecin. C'est un bon boulot. Mais si ce n'est pas toi, c'est mauvais. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi et de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi et de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nos enfants? Qu'est-ce que nous devons faire de nos enfants? Qu'est-ce que Dieu veut faire du tampon et de Saint-Pierre et de La Réunion? Qu'est-ce que Dieu veut faire de notre nation? Qu'est-ce que Dieu veut faire de vous et moi? Et un aveugle ne pouvant pas conduire un aveugle, on a intérêt de voir clair sur notre propre vie. Alors il y a des saisons où il faut être formé, il faut accepter de faire ce qu'on n'aime pas faire. Mais si tu sais que tu t'engages à faire des choses qui ne sont pas toi et qui vont t'éloigner de ce que tu es vraiment, c'est fini. Émilie Capron, que vous connaissez maintenant, elle adore les caméras. Je ne sais pas si c'est vrai, Émilie, mais on m'a dit que quand tu as appris d'aller faire les annonces, vidéos et tout ça, tu as dit en blaguant, je crois, mais tu as dit « ça fait des années que je me prépare pour ça, enfin !» Mais si tu dis à ma femme, Elodie, viens faire les annonces, elle te prend un flingue, elle veut te tuer avant, elle n'a pas envie de faire ça. Deux amis extrêmement proches, l'une rêve de faire les annonces devant les caméras, l'autre prie pour ne pas faire les annonces et être enroué ce jour-là. Et je sais que là, ce matin, je touche une corde sensible. Je suis très, très conscient, j'ai prié pour cette série-là, je sais où je vais... Avec le Saint-Esprit, je sais ce que Dieu veut faire. Il veut vous réveiller aux vraies questions qui vont nous aider à faire exactement ce pourquoi nous sommes nés. Parce que j'ai beau prier pendant 40 jours, j'ai beau jeûner pendant 40 ans, j'ai beau dire « Seigneur, je t'en supplie, prie en langue pendant des heures. Si je ne fais pas ce que Dieu veut que je fasse, je ne serai pas loin. » L'onction est toujours attachée à la mission. L'approbation de Dieu est liée aux fruits. Il y a des gens qui ont une immense onction, mais qui ne sont pas approuvés par Dieu. Samson en faisait partie. Samson avait une immense onction. Il a pu détruire toute l'armée des Philistins. Il en est mort, mais il avait l'onction. Est-ce qu'il était approuvé par Dieu? Non. J'ai vu des chrétiens qui, tant qu'ils faisaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent, l'onction coulait à flot, mais leur cœur était déjà loin de Dieu. Et un jour arrive où Dieu enlève sa main. Mais si on est capable d'avoir les fruits, le caractère, le fruit de l'esprit et les fruits de la productivité, le fruit qui sort d'une intimité avec Dieu et l'onction pour la mission, parce qu'on est dans la bonne mission, celle que Dieu a prévue pour nous, alors on est des chrétiens béni, rempli de Dieu, qui respire. Alors combien ce matin vous voulez me dire, Bruno, tu sais quoi, ça, ce point-là, je sais que je suis en plein dedans, je ne suis pas en train de faire ce qui crée ce que Dieu veut que je sois. Je sais ce matin en t'écoutant que je suis en train de prendre la direction, je fais des choses qui vont m'éloigner du vrai moi. Et il faut être honnête, hein, on appelle ça, hein, vous savez, un moment de vérité, où tu te dis, c'est vrai, j'avoue, ce que je fais en ce moment, c'est pas moi. Si tu me mets face à un meuble à monter, je vais le faire par amour parce que j'aime ma femme. Et elle qui m'aime va me dire, t'inquiète pas, j'appelle Sébastien. Mais je le fais par amour, mais j'aime pas ça. Je le off devant le plan. Je comprends rien au plan en plus. Je vous parle ce matin. Écoutez bien ce que Dieu veut faire. De vous amener vers une dimension de votre vie où vous faites les choses pour lesquelles vous avez été créé. Et si moi, en tant que pasteur, je sais que vous vous placez là où Dieu veut que vous soyez, mon seul rôle sera de vous encourager, de vous aider, de vous pousser en avant, de vous aider s'il y a des problèmes de caractère, de vous corriger s'il le faut, de vous réprimander quand il le faudra, de vous confronter avec amour. Mais je sais que tout ce que vous allez faire viendra du trône de Dieu, vous ne pouvez que progresser. Mais je ne peux pas, et tu ne peux pas, et personne ne peut obliger quelqu'un à faire quelque chose pour laquelle il n'a pas été créé. Et toi, le premier, tu ne peux plus t'obliger à faire quelque chose qui te pousse à être tout ce que tu n'es pas. Ne le fais pas pour les autres. Ah, mais mes parents veulent, et alors ? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se rebeller, demain tu rentres chez toi, papa, maman, j'arrête tout ça. Non. Encore une fois, prenez des jours et des semaines à réfléchir à ce qui est dit ce matin. Ne prenez jamais de décision sur un coup de tête. Réfléchissez, soyons comme les chrétiens de Béret. Prenez la parole de Dieu, relisez les passages, écoutez les messages. Priez. Dis, Seigneur, montre-moi si ce que je fais en ce moment vient de toi. Et si quand tu auras le feu vert de Dieu et qu'il t'aura ramené dans son plan parfait, tu verras l'onction va couler à flot. Te réveiller le matin, c'est génial. Je suis souvent à mon équipe. Ce n'est pas mon réveil qui me réveille. Si mon réveil me sort du sommeil, c'est ma mission qui me sort du lit. J'ai envie de sortir de mon lit parce que je me dis, j'ai une mission, je me sens bien, j'ai envie de faire ce que je fais. Ça me correspond, c'est moi. Et je veux grandir là-dedans. Combien ce matin, vous me dites, Bruno, je me sens prisonnier. J'ai commencé à faire des choses qui m'éloigne progressivement de ce que je suis vraiment et je sens que je ne respire pas assez bien. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, ceux qui sont concernés par cela.